Et son prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre, vos réactions sur le sort de Mohamed Bazoum. Depuis le coup d'État de juillet 2023 au Niger, le président renversé est toujours placé en détention par les militaires. Avec son épouse, il vit dans une aile de la résidence présidentielle. Ils sont privés de tout contact avec le monde, y compris avec leurs avocats. Hier, vous l'avez certainement entendu sur RFI, Reid Brody, qui est l'un des avocats du couple Bazoum, a déclaré que le président était l'otage d'une junte qui s'en sert comme d'un bouclier humain. D'ailleurs, en début de semaine, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a appelé à la libération immédiate du couple Bazoum, affirmant que le régime de Niamey n'avait fourni aucune explication justifiant la durée de leur détention, 18 mois, ainsi que l'absence de procès devant les juridictions nigériennes compétentes. Alors que vous inspire ce traitement réservé à Mohamed Bazoum? On en parle durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 62. Les réseaux sociaux également sont à votre disposition. D'ailleurs, je suis ravi de savoir qu'on nous suit au Niger, puisqu'on a de nombreuses réactions qui nous arrivent sur le compte WhatsApp, des réactions essentiellement de Niamey, la capitale. Donc, je lirai quelques-uns de vos commentaires et on fait en sorte, bien évidemment, de vous rappeler. Et on va commencer d'ailleurs, effectivement, l'émission avec des auditeurs du Niger. Bonjour, Idé.
Bonjour Juan.
Vous disiez au Standard ne pas comprendre comment l'ONU pouvait s'ingérer dans ses affaires et notamment concernant le sort de l'ancien président.
Oui, effectivement Juan, je suis vraiment indigné d'entendre un communiqué émanant de l'Organisation mondiale, de l'Organisation des Nations Unies, ONU, au sujet de la libération immédiate de l'ancien président Mohamed Bazoum. Ça, c'est une ingérence. Et aujourd'hui, ces ingérences avec le nouveau régime qui est en place depuis le 26 juillet 2023, nous combattons vraiment ces ingérences, ces interférences émanant des organisations qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont aucune souveraineté.
Donc pour vous, Idé, l'ONU a moins de légitimité que des militaires qui ont renversé un président démocratique et qui se sont accaparés le pouvoir dans votre pays.
Ce n'est pas une accaparation du pouvoir. Donc ces militaires-là sont des Nigériens. Et on parle du Niger. Donc l'ONU n'est pas vraiment un État dans le Niger.
Ouais. Mais en même temps, je vous entends et j'entends vos arguments. Ce que dénonce... Alors quand on dit l'ONU, pour être précis, c'est le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Ce groupe de travail, c'est une instance qui dépend directement du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce groupe de travail s'est penché sur les conditions de détention de l'ancien président. Vous trouvez ça normal que depuis un an et demi, il soit coupé du monde, privé de tout contact? Il n'a plus de téléphone d'ailleurs, donc il ne peut plus ni s'entretenir avec qui que ce soit, y compris sa famille, y compris ses avocats. Il ne voit personne, hormis un médecin qui tous les jours vient lui apporter de quoi s'alimenter.
Mais Juan, ça c'est vraiment hilarant. Je trouve ça vraiment comme un jeu d'enfant. Et quelqu'un qui est retenu au palais présidentiel du Niger, même Tchani n'est même pas au fait au niveau du palais présidentiel. Il se trouve actuellement là où il était commandant de la garde présidentielle, en laissant Bazoum le luxe et le prestige de demeurer encore au niveau du palais présidentiel. S'il vous plaît. Je trouve ça vraiment comme un jeu d'enfant. On veut infantiliser quand même les Nigériens, histoire de dire que Bazoum est coupé du reste du monde.
Bah, il est coupé du reste du monde. À partir du moment où vous ne pouvez recevoir personne et vous ne pouvez parler, communiquer avec personne, bah oui, vous êtes coupé du monde. Il n'y a pas d'autre formule, Idé. Ne raccrochez pas, je vous présente Djibo à Niamey. Bonjour Djibo.
Bonjour.
Merci.
Comment vous allez?
Bah écoutez, très bien. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous partagez le point de vue d'Idée à l'instant?
Le point de vue d'idée, je dirais que je le partage parce que quand on dit que l'ancien président Bazoum est coupé du reste du monde, je n'en disconviens pas. Être coupé du reste du monde, s'il s'agit du manque, n'est-ce pas, de l'impossibilité pour lui d'être en contact via ses téléphones et autres, ou bien la réception de visites, tout ça, je peux comprendre, mais ça ne peut être vraiment autrement dans la mesure où il est vraiment là-bas en résidence surveillée. Moi, c'est le terme que je préfère utiliser. Ce n'est pas une séquestration dans la mesure où il y a vraiment le minimum, ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour son bien-être et tout ce que cela implique.
Ouais. Et, en attendant Djibo, il n'y a aucune charge qui pèse contre lui. On sait que les autorités lui reprochent, après le coup d'État, d'avoir échangé au téléphone avec, je cite, « des forces obscurantistes ennemies pour commanditer une autre attaque avec l'aide des puissances étrangères », fin de citation. Ça, ce sont des accusations, mais officiellement, il n'y a aucune charge contre lui. Pourquoi, dans ce cas, ne pas organiser au plus vite un procès pour qu'il s'explique, qu'il se défende ?
Je ne sais pas. Peut-être que là, vous voudriez à ce que l'on fasse ingérence, n'est-ce pas, à la justice, que l'exécutif, n'est-ce pas, essaye de donner des ordres à la justice, ce qui va directement déboucher sur un manque de justice si on ne laisse pas, n'est-ce pas, les choses suivre leur cours normal. Est-ce que vous voyez ?
Je vois.
Je me dis que il ne s'agit pas de bâcler un procès et organiser des choses à la va-vite comme s'il faut faire juste pour faire. Est-ce que vous voyez ?
Je vous entends, mais ça peut prendre combien de temps alors, Djibo ?
Dans la mesure où je ne suis pas dans les arcanes du système, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va prendre. Ouais. Je suis un citoyen ordinaire, n'est-ce pas ? Donc, le fait d'estimer le temps que ça va prendre, c'est vraiment faire un saut de l'inconnu ou faire de l'imposture. Est-ce que vous voyez ? Ce que je sais, c'est que les choses doivent suivre leur cours normal, sans pour autant qu'on puisse vraiment recevoir des injonctions ou des ordres de qui que ce soit. Est-ce que vous voyez ?
J'entends tout à fait, Djibo. Je vous lis quelques réactions d'auditeurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, des réactions du Niger. Mohamed nous dit que l'ancien président est arbitrairement détenu. Il incarne le symbole tragique d'une démocratie mise à terre. Son isolement forcé constitue une violation inacceptable des principes les plus élémentaires de justice et d'humanité. Mohamed qui nous suit donc à Niamey. Adamou nous dit la décision de libérer ou non Mohamed Bazoum revient à la justice nigérienne. Salifou, également au Niger, dit avoir le sentiment que Mohamed Bazoum est aujourd'hui abandonné. Il est seul avec sa femme, entre les griffes d'une horde de généraux sans scrupules, animés d'une indescriptible animosité. Et Salifou de conclure son message sur WhatsApp en nous disant que l'homme est en train d'endurer le martyr. Le sort de Mohamed Bazoum fait réagir évidemment un peu partout en Afrique de l'Ouest. Bonjour, et en Afrique centrale, Claude, vous êtes à Douala, bonjour.
C'est bien ça, je suis à Douala. Bonjour.
Au Cameroun.
Bonjour à votre, très très grande équipe et formidable équipe d'ailleurs.
Merci de vos encouragements. Claude, que vous inspire le traitement réservé à Mohamed Bazoum depuis un an et demi ?
De l'indignation, tout simplement. C'est curieux. C'est curieux que quelqu'un aujourd'hui plus émis ne soit pas non seulement accusé, ne soit non seulement n'a aucun chef d'accusation. Là, il est en résidence surveillée, comme on dit certains. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera jugé. Et d'autres pensent qu'il est dans un luxe. Ben, le luxe voudrait que ceux qui veulent donner des leçons aux autres puissent au moins se marcher dans une petite démocratie.
Vous parliez de jugement. Claude, je vous coupe la parole, j'apporte une précision. L'immunité de Mohamed Bazoum a été levée il y a de cela plusieurs mois, c'est-à-dire qu'à tout moment, il peut y avoir un procès. Simplement, depuis la levée de son immunité en juin dernier, aucune date n'a été annoncée pour un procès. S'il y a procès, il pourra au moins s'exprimer, se défendre, s'expliquer.
C'est ce que je disais tout à l'heure, Juan. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il a été élevé, aucun procès en vue, il est là. Combien de temps faudrait-il ? Les deux précédents auditeurs disent qu'il faut attendre la justice. Un an et demi, on n'a rien du tout. On attend. Combien de temps faudrait-il attendre ? Je voudrais vous rappeler sur cette antenne, je vous le dis avec beaucoup de sérieux, ces auditeurs qui sont passés tout à l'heure et qui on l'est, qui m'est donné l'impression de supporter ce régime, que je peux dire dictatorial à l'heure actuelle, seront les premiers à dire que la communauté internationale a tourné le dos contre eux, pour eux. La communauté internationale ne dit rien face aux menaces qu'ils pourront subir par la junte qui est en place pour le moment. Ils sont les premiers. Donc aujourd'hui, quand l'ONU demande qu'il y ait un procès...
En tout cas, l'ONU demande une libération. L'ONU, ce groupe de travail, demande la libération immédiate du couple Bazoum, puisqu'on parle du président, mais il est dans la même situation avec son épouse depuis maintenant 18 mois. Merci Claude. Je disais qu'on avait des réactions d'Afrique de l'Ouest. Il y a par exemple Maé qui nous écrit du Sénégal. Il affirme que Mohamed Bazoum ne mérite pas cette détention. C'est une grande injustice pour un homme qui a consacré toute sa vie pour le bien du Niger. Saliou nous écrit de Guinée, le fait qu'un président élu soit toujours retenu sans accès à ses avocats, ni à un contact normal avec l'extérieur, constitue, dit-il, une violation flagrante de ses droits fondamentaux. L'ONU, nous dit cet auditeur, a raison de dénoncer une détention arbitraire et de demander sa libération. Bonjour Pascal.
Bonjour Juan.
Vous nous avez écrit sur WhatsApp, vous êtes à Avrancourt, au Bénin. Vous disiez qu'il était temps que Mohamed Bazoum accepte de démissionner. Alors c'est vrai que Mohamed Bazoum n'a toujours pas signé sa démission de président du Niger.
Et le fait de n'avoir pas fait cela jusque-là et en réclamant la libération et la remise au pouvoir de Bazoum, vous savez très bien, la France est devenue l'ennemi du Niger. En faisant la même chose, le Bénin est devenu l'ennemi du Niger. Et sans oublier que la CEDEAO également est devenue l'ennemi du Niger en réclamant la libération et la remise au pouvoir de Mohamed Bazoum. Et tout récemment, on apprend également que les fonctionnaires de la CEDEAO, qui sont d'origine des États de l'AES, se sont simplement remerciés.
Quel rapport faites-vous entre ces différents points que vous venez de citer et le fait que Mohamed Bazoum n'ait toujours pas accepté de démissionner, de signer sa lettre de démission?
Voilà. Je pense tout simplement que Bazoum se contente de ses soutiens qu'il a jusque-là et ça le conforte dans sa position de ne pas signer sa démission, alors que plein d'autres présidents de l'Afrique de l'Ouest qui ont subi le même sort que lui ces derniers temps ont déjà signé leur démission et sont d'une manière ou d'une autre libres de leur position, de leur mouvement.
Il va falloir vous pensez que si Mohamed Bazoum acceptait de démissionner, il serait libre et serait peut-être et aurait la possibilité de vivre quelque part en exil.
C'est bien ça. Et c'est le fait de s'entêter, excusez-moi pour le terme, le fait de s'entêter, c'est ça qui le maintient dans cette opposition, qui fait que tout le temps l'ONU est obligée d'appeler à sa libération, la CEDEAO est obligée d'appeler à sa démission, alors qu'il doit savoir que c'est le Niger qui lui a donné le pouvoir et que c'est le Niger qui lui a retiré également le pouvoir. Il doit comprendre cela et se remettre à sa place, tout simplement.
Excusez-moi, une seconde, on discute, Pascal, c'est le peuple qui lui a donné le pouvoir en l'élisant, en votant pour lui, et ce sont les militaires qui lui ont retiré le pouvoir, pour dire les choses telles qu'elles se sont passées, Pascal. Un commentaire sur WhatsApp, Diane, je vois son indicatif 235, je ne sais pas quel pays, mais Diane nous dit, non ce n'est pas le Tchad, on dit le Tchad au casque, mais je ne pense pas que ce soit le Tchad. En tout cas, Diane nous dit, un président démocratiquement élu, renversé, séquestré par des putschistes à la solde de la Russie. Hacham, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Hacham, vous êtes à Niamey, vous êtes au Niger. C'est bien ça. Parlez un tout petit peu plus fort, on vous entend très loin.
Vous m'entendez bien, moi je vous entends.
Ah ben nous aussi, mais ne criez pas non plus. Hacham, vous disiez au Standard que l'ONU avait raison de demander la libération de Mohamed Bazoum.
Oui, tout à fait. L'ONU a tout à fait raison de demander parce que d'abord, l'ONU, c'est la référence, c'est l'institution la plus référencée du monde qui a uni toutes les nations autour de certains idéaux qui sont la paix, la liberté, la justice. Donc l'ONU est dans son rôle.
Et donc, maintenant que fait-on? Une fois que l'ONU demande la libération, on voit mal les militaires accepter de libérer le président renversé. Quelle doit être l'étape suivante, Hacham?
Non, moi je pense que ce n'est pas évident que les militaires n'accepte pas cette proposition. C'est une perche quand même. Tout doit se faire dans la paix et dans le respect.
Oui, enfin, en même temps, excusez-moi,
c'est Cham, une opportunité.
Oui, c'est une opportunité, mais qui ne sera certainement pas saisie par les militaires. Je vous rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, la Cour de justice de la CEDEAO avait ordonné la libération de Mohamed Bazoum. Et cette demande, elle est restée lettre morte. Alors vous me direz que depuis le Niger, votre pays a quitté la CEDEAO. Mais voilà, il y avait eu une occasion à ce moment-là aussi pour libérer l'ancien président. Ça n'a pas été fait.
Peut-être que la Cour de la CEDEAO, elle a agi plus... Elle a été plus rigide que l'ONU. Parce qu'elle a d'abord fait la menace avant de penser à autre chose. Or, ici, l'ONU, c'est le dialogue, c'est l'ouverture. On ne peut pas quand même s'en passer d'être dans le monde. On est dans le monde, le Niger est dans le monde. Et le Niger ne peut pas sortir du monde. Le Niger peut sortir de la CEDEAO, mais le Niger ne peut pas sortir du monde.
Merci, Hacham. Merci, j'entends bien. Donc, en tout cas, vous saluez l'initiative de l'ONU, de ce groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, qui, je le rappelle, est une instance qui dépend directement du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. 33 9 693 693 70. Bonjour Ali.
Bonjour Juan, merci pour toute ta grande capacité à nous gérer en tant qu'auditeur avec nos humeurs et nos états d'âme.
Bon, merci en tout cas à vous de votre confiance. Ali, vous êtes à Niamey, vous nous suivez sur Internet, j'imagine grâce à un VPN. Que vous inspire le sort de Mohamed Bazoum ?
Oui, vraiment c'est une situation qui, vue de loin, elle peut paraître simple, mais en réalité elle est vraiment compliquée. Pour ne pas refaire l'histoire, il n'y a jamais eu un président déchu au Niger qui continue à se réclamer président. Bon, maintenant, puisqu'il y a une accusation...
Excusez-moi Ali, a-t-il raison de refuser de démissionner ?
Ben ça, c'est ça justement qui complique la situation. Parce que si on demande sa libération pure et dure, bon, il y a des accusations qui sont fondées. Au moins, s'il fait un pas, c'est-à-dire en acceptant sa démission, comme les autres présidents l'ont fait, maintenant, nous pourrons tendre vers une justice transitionnelle. Parce que moi, je suis véritablement pour cette sorte de justice transitionnelle, pas seulement pour lui seul, Bazoum, mais tous ceux qui sont inculpés du fait de leur appartenance au gouvernement. Donc, et il faut se dire aussi que véritablement, les militants du parti déchu ne facilitent pas les choses parce qu'il y a une guerre de tranchées entre ceux qui sont avec Bazoum et ceux qui ne sont pas avec Bazoum dans le même parti politique. Et du coup, il y a aussi le Niger. Donc vous voyez bien que dire de l'extérieur, surtout qu'il continue à dire que même la CEDEAO avait dit de le libérer et de le réinstaller dans ses fonctions. Ouais. Vous voyez bien que ça complique les choses. Véritablement, nous disons qu'il faut aller dans le sens d'une justice transitionnelle et que lui-même doit coopérer dans le cadre de sa liberté, quel que soit ce qui se passe. Moi, je dis que la meilleure façon pour un homme, c'est d'être libre.
Ouais. Ali Boubacar, sur WhatsApp, nous dit « J'ai suivi avec... » Il est à Niamey, hein, Boubacar. Il nous dit « J'ai suivi avec espoir les annonces des prochaines assises nationales. Mais comment croire à une transition apaisée tant que Bazoum reste privé de liberté sans aucun fondement juridique. Le sort de Mohamed Bazoum doit être débattu lors de ces assises qui vont commencer très prochainement, ces jours-ci.
Oui, moi c'est un peu pour ça que j'avais effleuré cette notion de justice transitionnelle. Je pense que ceux qui seront partie prenante au niveau des assises vont se pencher sur cette situation-là et lui demander également de démissionner. Parce qu'on ne peut pas réclamer deux présidents dans un même pays. Là, ça complique les choses. Ça complique véritablement ce climat d'apaisement-là. Il faudrait bien qu'il accepte de ne plus être président. Parce que quand les gens parlent, on dit l'ancien président. Et lui, il n'est pas dans la robe d'ancien président.
Oui, il est dans la robe, pour prendre votre expression, de président renversé. Ali, merci infiniment et merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment au Niger. Les réseaux sociaux fonctionnent, les VPN fonctionnent également, visiblement. En tout cas, merci à tous de votre confiance et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, évidemment, à travers le monde. 9h59, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On revient évidemment demain matin. Et d'ici là, prenez soin de vous.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir
bonjour.
Ensemble.
Ah oui, ensemble. Caroline Paré, bonjour.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, de quoi parlez-vous ?
On va parler aujourd'hui de la lutte contre les préjugés raciaux en médecine, parce qu'il peut exister des différences dans l'échange, dans les soins, avec les patients en fonction de leur couleur de peau, de leur origine, de leur langue. On engage le débat avec nos trois invités en studio pour parler de cette question importante de lutte contre les discriminations, parce que ça joue aussi sur les pronostics de santé, par exemple en maternité ou dans les services des urgences.
Et c'est à suivre.